Hello, j'espère que vous allez bien. On est dans l'épisode 4 du podcast Héritage. Héritage, c'est une exposition à propos de 4 décennies du rap liégeois organisée par la SBL Nectar au Centre culturel des Chiroux. Le vernissage a eu lieu le 28 février et ça aura lieu jusqu'au 4 mai avec notamment un cypher qui regroupera beaucoup d'artistes. Mais en attendant, on est dans l'épisode 4 de ce podcast qui est dédié aux femmes. Je suis avec Martha. Martha, comment tu vas ?
Ça va et toi Régis ?
Très bien, très content d'être encore ici pour un nouvel épisode. Je suis hâte de découvrir encore beaucoup de choses à propos de notre culture liégeoise.
Oui, bah écoute, cette émission promet d'être riche puisqu'on a des super invités. Il y a d'abord Divine qui est là avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu as été active et tu l'es toujours, hein, on va en rediscuter, surtout dans la drum and bass au début. Oui. Tu as commencé en 2004.
Oui.
Et puis tu as lancé ton projet solo. Et donc ton projet solo, c'est un mix entre dub et hip-hop. Et ça, c'était plutôt dans les années 2010-2011.
Oui, c'est ça.
À côté de moi, il y a Salt. Bonjour.
Bonjour.
Alors toi, t'es la cadette, on peut dire ça, de
c'est
l'émission.
Ça.
Donc t'es musicienne et puis t'es rappeuse, tu rappes en français. Mm-hmm. Tu fais du rap conscient, mais tu disais que tu avais encore envie que ton travail évolue.
Ah, exactement, ouais. Je viens de commencer.
Donc ça fait un an et demi plus ou moins que tu rappes et tu as aussi participé aux ateliers rap de Nectar.
Exactement.
La boucle est un peu bouclée comme ça, c'est chouette.
Voilà.
Y a Enke qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Enke qui est aussi une rappeuse liégeoise qui a notamment lancé sa carrière en gagnant le concours Liège Got Talent. Elle a participé à des programmes d'accompagnement d'artistes comme Sphère Sonore ou Concours Circuit et j'espère qu'elle arrivera bientôt. Une première question pour toi Salt. Okay. Tu disais ça fait pas longtemps que tu es dans le rap. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer?
Alors c'est un peu particulier parce que de base ça m'avait jamais traversé l'esprit. Un jour, alors que je travaillais, je suis fleuriste de formation, l'éducateur de la MJ d'Herstal, donc JF, si tu passes par là, bonjour, est rentré là où je travaillais pour prendre un bouquet de fleurs et on a commencé à discuter. Il me dit « j'ai un studio, tu devrais passer pour enregistrer ». Et moi j'étais toute fière, je suis avec ma guitare, tout le bordel, et je dis « je vais enregistrer ». Oui, parce que de base, je voulais faire du hard rock et du métal, pas du rap. Et je me suis retrouvée avec une flopée de gamins de 15-16 ans, super sur deux, en train de balancer des textes, super, super à fond dedans. Et je disais, mais c'est génial en fait. Et j'écrivais déjà beaucoup. Donc je me suis dit, c'est bon, on se lance quoi.
Et toi, Divine, est-ce que ton parcours est un peu similaire? Comment ça se passe pour toi?
Eh bien, ça commence aussi dans une maison des jeunes à Chénay. J'ai commencé en fait avec un groupe aussi de métal, ado.
C'est marrant ça.
Et donc d'où l'importance des fois des lieux comme les maisons des jeunes, etc. On avait pas mal de meetings avec... Et à ce moment-là, il se passait quand même pas mal de concerts au Centre culturel de Chénay. Donc on avait l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes. Musicalement, voilà, on avait envie juste voilà, d'exister, de créer, d'être là. Et puis... J'ai découvert la musique drum and bass et ça a été une claque pour moi. Une fois, j'étais en ville et je croise DJ Baz avec qui après j'ai fait beaucoup de choses. Qui m'a dit, viens vendredi, prends ton micro. Ok, j'y suis allée et puis je suis restée vraiment dans ce mouvement-là, ancrée pendant plusieurs années. Donc un peu du hasard aussi. Et le goût de l'énergie, de la scène, de l'effervescence finalement. Et voilà.
Et tu te lances en projet solo après?
Oui.
Voilà, qu'est-ce qui te pousse à aller vers ça?
Alors, on m'a souvent dit, tiens, t'as pas essayé de faire des tracks, etc. Et j'avais un peu peur peut-être parce que forcément MC Drum and Bass on accompagne des DJ, on est un peu du crowd hyper, on amène l'ambiance, on vient amener de l'emphase finalement et c'est un peu éphémère parce que finalement ce qu'on dit c'est un peu du freestyle donc c'est pas ancré. Et j'ai rencontré j'étais surtout poussée par DJ Bust qui a enregistré beaucoup de rappeurs qui vient vraiment du milieu, voilà, du beatmaking, de tout ce qui est turntablisme, du hip-hop vraiment pur et dur, rap. Et grâce à lui, bah, on s'est dit, tiens, on va faire quelques morceaux. Et c'est comme ça que ce projet est né, finalement. C'est parce qu'il m'a accueillie dans son studio.
Voilà. Et tout de suite, parce que quand on regarde finalement l'exposition Héritage, il y a très peu de femmes, et notamment à ton époque. Comment ça t'est accueilli? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une question qui se pose pour toi ou pas du tout?
Absolument pas, ouais. Dans le sens où... Je me suis jamais posé la question homme-femme, c'est mieux, etc. Je pense que justement, le fait, à ce moment-là, peut-être, ça m'a plutôt donné beaucoup plus de chance. Je me suis jamais posé la question des thèmes abordés ou de... Voilà, pour moi, c'était voilà, l'équité, on fait de la musique. Et puis entre guillemets, bah, que homme-femme, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de filles en MC... en règle générale, ça fait plaisir d'en voir davantage encore maintenant, quoi, clairement.
Tu parlais de personnages comme DJ Buzz qui ont compté pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un peu contribué à te faire évoluer?
Oui, à fond. Autour de moi, je vais parler de DJ Buzz avec qui j'ai tourné beaucoup. Ça nous a permis d'aller jouer dans beaucoup de festivals, en tout cas. Milieu drum and bass, c'est Tomorrowland, d'aller jouer à Londres, d'aller jouer à Paris, d'aller jouer partout. Et ça a été aussi un comparse avec qui on a organisé beaucoup d'événements et un peu partout à Liège. Donc c'est vraiment une influence. Jamie, donc Crash, qui nous a rejoint aussi dans nos événements d'Optimus. Je pense aussi à Bob, avec qui j'ai commencé mon groupe de métal adolescente, et puis avec qui on a eu une émission de radio sur 48FM. Ça a aidé aussi, l'influence du grime a amené aussi le projet Divine. Et DJ Bust, et puis des personnes comme Zineb qui m'ont accompagnée. Zineb qui a le projet Oniri, et qui a été aussi très active ici à Liège. Qui m'a aidée dans les bacs, dans les prods, etc. Et qui a été aussi un super support. Donc c'est vraiment des personnes qui ont aidé au développement du projet.
Toi, Solt, est-ce que quand tu débarques dans l'atelier Nectar, quand tu débarques un peu dans ce milieu, est-ce que cette question d'homme-femme, elle vient sur la table ou pas du tout?
Ouais, et je pense que c'est aussi une question d'époque. On en parle beaucoup plus à cette époque-ci, peut-être qu'il y a 10 ans. Et aussi une histoire de vécu. C'est assez compliqué. Et la question des droits de la femme et de tous les préjugés qu'il y a autour, je pense les avoir vécus. Voilà. Du coup, j'ai cette envie d'être... j'ai toujours ce questionnement d'être assez ou pas assez. Donc c'est toujours compliqué. D'un côté, il y a la gamine de 15 ans qui se dit ah, on s'en fout, Zef, fais ce que tu veux, t'as toujours été une enragée de la vie, on s'en tape, vas-y. Et puis t'as l'autre qui se dit mais si tu faisais quelques kilos de moins, peut-être que tu passerais plus facilement à la radio, peut-être que tu. Pas à la radio, mais à la télé, alors qu'en fait, on s'en fout. Donc voilà, c'est toujours des petits questionnements comme ça, des petites polémiques aussi qui reviennent régulièrement sur la table. Par exemple, juste aujourd'hui, en regardant les réseaux sociaux, je vois un article qui parle de Dochi qui dit oui, mais c'est parce que elle a été faite par les boîtes de production, qu'elle a été poussée à être ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle a réussi. Mais j'ai l'impression que c'est souvent un discours qu'on ressort à des femmes qui ont réussi, quoi. Et c'est casse-pied. C'est tout ça qui revient sur la table aussi quand j'écris. J'aimerais à l'avenir, parce que j'en ai pas encore, avoir des textes plus engagés qui parlent vraiment de la réalité des faits, pas simplement de ce qu'on entend et de ce qu'on voit partout. Parce que féministe, c'est une chose. Je suis féministe, mais il y a aussi le tas de clichés qui collent au féminisme, le tas d'idées un peu bêtes comme quoi parce que je suis féministe je devrais pas prendre soin de moi, pas faire certaines choses ou justement en faire d'autres et c'est encore une fois nous mettre dans des cases en fait.
À fond. Et comment est-ce que c'est perçu, ça, justement, tes textes, tes prises de position, de parole, quand tu me disais en off que tu faisais, par exemple, des micros ouverts. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est bien accepté ? Est-ce que tu as des remarques, des retours positifs, négatifs ?
Ça dépend le milieu. Ça dépend où on est, en fait. C'est souvent une question de contexte. Bien sûr que quand je vais à la zone déclamer un texte qui parle de féminisme, qui parle de mon vécu, bien sûr que ça va être accueilli correctement parce que c'est l'endroit pour. Par contre, voilà, je n'ai jamais fait l'expérience de le faire sur les réseaux sociaux parce que juste quand je vois certaines vidéos d'autres femmes et je vois les commentaires en dessous, c'est une déchetterie, quoi.
Oui, mais par exemple, tu vois, je parle dans les concerts, par exemple, des ateliers rap, tu vois, Nectar, où tu partages parfois la scène, je pense, avec d'autres mecs qui participent aussi aux ateliers, qui n'ont pas toujours cette conscience non plus dans les paroles de féminisme. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Comment ça se passe ?
Oui, il y a de la place pour tout le monde.
Ouais.
Je me sens un peu comme une meuf badass à chaque fois que je démarque. À chaque fois que je débarque, parce que je suis toujours une des seules meufs J'ai mon caractère, je suis quelqu'un de fort imposant, on va dire, au niveau du caractère. Et ça se sent. Et j'ai des gens qui me trouvaient, qui me disaient, mais c'est génial, c'est cool. Et ça me fait super plaisir. Donc oui, il y a de la place pour les femmes dans l'hip-hop à l'heure actuelle. Oui, il y en a.
Est-ce que tu peux nous raconter ta première performance sur scène ? Est-ce que tu t'en souviens ? Comment ça s'est passé ?
Alors, première performance rap ou première performance chant ?
Rap plutôt.
Rap ? Oula. La première performance rap, je considère que c'est celle de mon premier urban. À chaque fois que j'y repense, ça me fait rire parce que j'étais pas du tout préparée. J'étais vraiment à bout de souffle. J'arrivais pas à faire ma chanson correctement. Mais je l'ai fait de A à Z et c'était génial.
Et on ressent quoi ? On est stressé ? On est content ?
C'est un mix de tout en fait. C'est une sorte de cocktail d'émotions qui vous arrive à la tronche comme ça. C'est formidable et c'est très flippant en même temps. C'est un mélange de tout, surtout quand on est sur scène et qu'on voit qu'on doute ou qu'on n'arrive pas à balancer une phrase comme on aura envie, et c'est très 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 stressant. Et au final, les gens, ils ont plus tendance à suivre l'énergie plutôt que la performance parfaite, et ça c'est encore plus grisant. Avoir terminé une chanson, même si on s'est foiré, avoir des gens qui viennent te dire ouais, c'était cool comment t'avais balancé ça, ben, ça fait du bien, franchement, honnêtement, c'était une expérience que je revivrais quand même si elle était particulièrement difficile.
Et toi, est-ce qu'il y a un moment où qui te marque particulièrement dans un concert que tu as fait, dans ta carrière, quoi, finalement ?
C'est clair que, par exemple, l'année où je jouais, je pense, à 19h aux Ardentes, était vraiment folle, parce qu'après moi, il y avait vraiment des groupes dont j'étais vraiment fan, que c'était une heure sympa, 19h aux Ardentes, c'est quand même non négligeable. Et c'était l'aboutissement aussi à ce moment-là, la TEP, on avait fait les résidences, on avait travaillé dessus, on avait mis du taf pour que ce soit bien. Et c'était chouette de pouvoir partager ça à Liège. Et donc, je pense que ça, c'était par rapport au projet Divine, c'était vraiment le meilleur moment. Et dans la scène plutôt drum and bass, c'est clôturé Festival de Dour le dimanche devant, je sais pas, 6000 personnes. C'était aussi très impressionnant. Donc, c'est vrai que les scènes de festival, elles ont ce côté super stressante à la fois parce que. Est-ce qu'il y aura du monde, il n'y aura pas du monde Est-ce que les gens vont nous jeter des trucs ? Peut-être, mais je n'ai rien senti. Et donc, ça fout les pétoches. Mais on est content quand on l'a fait. Après, on est sur un petit nuage et ça fait plaisir.
Et quand on vient de Liège comme ça et puis qu'on se retrouve à Dour, il y a parfois un sentiment un peu à Liège de se dire on est petit, on est. Et du coup, quand on se retrouve comme ça à Dour, est-ce que ça joue ? Est-ce que ça. Voilà.
On est fiers. Après, c'est vrai qu'avec le projet, on va dire solo, c'est plus difficile d'exister dans le paysage belge, que ce soit en Flandre, etc. Dans la musique électronique, c'est beaucoup plus facile. On a ce côté où on est fiers, on représente Liège, quoi. Et un côté, quand je pense, c'est pas du tout le même créneau, mais le côté Wallifornia mis en avant par les pop dope, il y a un côté, on est fiers du 4000, quoi. Donc,
toi aussi, tu ressens un peu ce sentiment-là ou moins, voilà.
Honnêtement, je sais pas trop. C'est vrai qu'on se dit toujours, ouais, la Belgique, c'est petit, on a envie de partir pour grossir. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça ? Est-ce que c'est pas suffisant ? J'en sais rien. Après, quand vous me dites ça, j'ai pensé à un artiste qui s'appelle Silla, que beaucoup de gens connaissent. Lui, on lui a dit tout le début de sa carrière de cacher qu'il était belge. Je trouve ça pas juste. Dans le fond, la Belgique a ses pépites et Silla en fait partie, quoi. Et je pense que je resterai toujours fière d'être belge, d'être liégeoise, malgré tout ce qu'on peut en dire.
Est-ce que tu peux nous parler peut-être, Divine, un peu de ton, de la manière dont tu travailles, tu travaillais peut-être tes textes et voilà.
En fait, c'est beaucoup de l'observation, je veux dire, de la vie de tous les jours, des sentiments, la société en règle générale, de dire tiens, il y a un thème ou un moment, tiens, ce thème-là est tellement prégnant, je vais essayer, tu vois, de l'étoffer. Il y a un morceau que j'ai fait, Till the End, qu'on avait clippé. C'est vraiment typiquement la gueule de bois, dimanche, je pars de la Beauvrie, je suis avec mes copines. On débriefe la soirée de la veille. Qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Et en même temps, t'es là avec ton training et tu rigoles. Et en fait, juste des moments de vie comme ça, ça suffit pour te faire un morceau. Et moi, c'était vraiment ça peut être un film, ça peut être... c'est vraiment l'observation. Parfois, ça va être le beat. Mais d'abord, je vais écrire des thèmes. Et puis, quand j'aurai le beat adéquat, je me dis, ah, c'est celui-là qui matchera là-dessus. Mais c'est vraiment la vie de tous les jours qui nourrit l'écriture.
Sol, toi, tu parlais de texte engagé. Est-ce que toi, Divine, il y a quelque chose qui se retrouve un peu là-bas ? Est-ce que tu portais un étendard ou quelque chose comme ça ou pas vraiment ?
Dans certains morceaux, oui. Dans certains morceaux, oui, mais c'est essentiellement sur le non-sens des fois du monde dans lequel on est et le chaos global qui nous donne beaucoup d'anxiété, beaucoup de mal-être, et donc là, on peut en écrire beaucoup. Mais certains morceaux, c'était ça. Et puis, ou juste l'énergie de la colère. La colère, elle peut être sociétale, mais elle peut être intérieure aussi. Et donc, c'est bien d'avoir des moments comme ça. Après, je n'ai pas nécessairement écrit sur du féminisme, nécessairement. Mais le sisterhood, la sorority, comme je dis, voilà, Tidienne, pour moi, c'est ça. C'est des moments comme ça de vie où on sent ces valeurs-là.
Et Régis, tu voulais réagir ?
Ah non, désolé, je regardais seul.
De mon côté, je tiens quand même à dire que c'est parce que je fais de l'engagé, que c'est toujours du 100% engagé. À un moment, il faut respirer, il faut vivre, il faut apprécier la vie telle qu'elle est aussi. Hein. Je veux faire des morceaux plus cool aussi, mais c'est sûr que oui, c'est des thèmes qui seront abordés, et ce seront peut-être par petites piques dans certains textes. Parce que je ne vis pas que du féminisme, hein. Je mange, je respire comme tout le monde, quoi. Donc oui.
Et tu parlais de sororité. Est-ce que ça, justement, dans le milieu musical, dans l'industrie musicale, est-ce que ça se retrouve beaucoup ou pas nécessairement ?
Absolument pas.
Ouais.
Absolument pas, parce que souvent, on est entouré de messieurs. Bizarrement, les gens ont tendance à mettre les rappeuses ou les artistes féminines l'une contre l'autre, alors Exactement. Que c'est pas du tout le sujet. Et que je crois que ça, c'est un truc aussi qui est propre un peu des fois au milieu du hip-hop ou du rap. Il faut être dans le contact. C'est vrai qu'historiquement, les battles, etc., c'est prégnant, mais c'est dommage des fois d'avoir quelques meufs. Et dire, comparer, il y a une autre meuf, et fait juste la musique. Je pense pas qu'il y ait vraiment une sororité, en tout cas à l'époque. Je pense que maintenant, j'espère en tout cas que c'est beaucoup plus le cas maintenant, quoi.
Mm-hmm. Et est-ce que, j'ai peut-être une question, est-ce que parfois le côté, on s'en rend pas compte, le côté un peu boys club qu'on a en tant que mec dans le hip-hop, est-ce que ça aussi, cet effet-là, on va dire, inverse à la sororité, on va dire, des fois où enfin ouais, il fait Boys Club. Est-ce que aussi à certains moments il a été, enfin pas néfaste, mais tu l'as ressenti et tu t'es senti parfois rejeté par cet esprit-là?
Absolument pas, parce que je pense que une fille qui est dans un milieu comme ça amène aussi, je suis désolée du terme, ses couilles sur la table. Mmh. et n'a pas besoin de la validité de Boys Club pour pouvoir exister. Donc non, mmh, ça cohabite très bien.
Je suis très d'accord avec ça.
Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir quand même assez confiance en soi pour penser comme ça? Parce que je rebondis un peu sur ce que tu disais en off, encore une fois, de légitimité. Mais c'est, quand j'interroge des artistes féminines, c'est quelque chose qui revient souvent, où on se cherche, etc. Et puis qu'on a du mal parfois à se sentir légitime jusqu'à ce que... Et du coup, tu vois, amener ses couilles sur la table, est-ce qu'il faut justement avoir une bonne confiance, être sûr de son projet ou...
C'est pas celui qui crie le plus fort qui forcément est le plus fort. Je pense que des fois, c'est vrai qu'il faut être des fois dans la peau d'un personnage. Je ne peux pas dire un personnage, mais il faut, si on doute, si on n'y va pas, franchement, ça se voit, ça va se ressentir. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vulnérable et qu'on n'a pas des insécurités, qu'on se dit pas... Moi, chaque concert ou chaque moment que j'ai dit, je me suis dit, ah non, c'est des foirés, ça va pas. Mais sur le moment, il faut pas que ça se voit. Mm-hmm. Parce qu'il faut y aller. Et puis, ça nous porte aussi, des fois, de se dire, allez, j'y vais, badass, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, j'y vais et on y va. Et voilà, et ça nous porte, ça nous...
Exactement. Quand on est, moi je me rappelle au début, je faisais des petits concerts avec deux gars qui ont 15 ans, mais qui déchirent tout. Et se retrouver dans une bande de gars comme ça, enfin il y a des garçons plus âgés aussi, ça nous pousse un petit peu à être comme ça aussi. Et des fois ça fait vachement du bien, faut dire ce qui est, d'être un petit peu libérée de ce carcan, d'être la meuf ultra douce, ultra féminine, et de pouvoir une fois pour toutes dire écoute... Là, j'ai pas envie d'être sympa, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de cracher toute ma haine devant un micro. Ça fait vachement du bien. Honnêtement, c'est libérateur.
c'est chouette de vous entendre parler comme ça. Toi, tu parlais tout à l'heure, tu disais que ta musique, t'espères qu'elle évolue encore.
Ouais.
Tu nous expliques?
En fait, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé les textes. Mais moi, j'ai énormément d'influences diverses. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse au rap US notamment. Et moi, de base, j'écoute du hard rock, du heavy metal, de la soul. J'aimerais que ma musique soit aussi orientée pour les musiciens. Parce que j'ai parfois l'impression que dans le rap français actuel, on délaisse fort la musique. Au profit du texte ou que sais-je, mais j'ai cette impression-là, je préfère le rap US qui a ce côté plus expérimental avec une instrumentalisation qui est plus forte, par exemple Kendrick Lamar qui a énormément de passages plus expérimentaux sur pas mal de morceaux, MF Doom qui a par exemple une ambiance à lui tout seul. J'aimerais avoir ce côté-là, mon ambiance à moi, ma patte. Et en même temps, un mélange de plein de styles différents. Parce que je suis musicienne moi-même, je joue du piano, de la guitare, je chante depuis que je suis toute petite. Et j'aimerais concilier tout ça, ne pas avoir à faire trop de concessions, en fait. Parce que déjà, quand j'ai commencé le rap, tout le monde m'a dit « Ah, tu vas plus chanter alors? C'est fini ? T'avais essayé de faire The Voice deux fois, tu feras plus ?» Et les gens étaient en panique. « Mon Dieu, tu vas arrêter de chanter ?» Non, je vais pas arrêter de chanter. Je veux juste amener ça d'une manière à ce que ce soit pas la petite baby doll qui fait du rap et qui chante en même temps et qui fait un truc tout mignon, parce que c'est pas ce que je veux. Et tout ça, c'est une question d'équilibre. C'est une pincette de ci, une pincette de ça. Est-ce que ça marche ? Et voilà, là j'apprends à faire mes morceaux moi-même, j'apprends le beatmaking, chose que je maîtrise absolument pas. Donc pour le moment, oui, mes morceaux sonnent un peu space, mais c'est pas intentionnel. Mais c'est vraiment ce que je cherche, en fait. Je cherche à perturber l'auditeur, à ce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je viens d'entendre, quoi. C'est ça que je cherche.
Et toi, Divine, quand tu lances ton projet solo, qu'est-ce que tu as envie d'amener de nouveau ?
Bah, la tape s'appelait Hybrid. Donc, je suis allée vers des genres différents. J'avais pas envie d'être nécessairement 100% hip-hop, parce que pour moi, je ne suis pas 100% ça. Je suis un petit peu de tout. Et il y avait tellement aussi d'univers que j'aimais bien. Enfin, mon inspiration, c'est beaucoup tout ce qui est anglais. Donc, des trucs comme Max Singer, The Streets, des choses qui vont un peu dans le garage, des choses qui vont un petit peu sur la musique électronique, mais en même temps avoir des moments plus soul, des moments plus doux, des moments plus durs, du grime, des choses sales. J'avais envie de plein de trucs et peut-être revenir aussi à des choses plus drum and bass, où là, ça n'a rien à faire, je reviens en boucle, mais c'est la base.
et ta carrière, elle dure combien de temps et qu'est-ce qui y met fin finalement ?
Alors, en fait, tout est allé très, très vite. J'avoue que voilà, j'ai fait une tape un peu comme ça. Tiens, on va la sortir ? Ok. Tiens, on va faire un clip ? Ok. Ah, il y a des vues ? Oh, mon téléphone ? Ah, est-ce qu'on sert ? Et tout est allé super vite. Ou aussi, j'avais besoin d'un, voilà, peut-être d'une équipe. Parce qu'on était vraiment... je fais un concert, il y a un booker à la fin du concert. Il y a eu beaucoup de choses très, très professionnelles. Est-ce que j'étais prête à ce moment-là ? Je sais pas. Après, personnellement, dans ma vie, il y a un événement qui a fait que, dans mes proches, très très proches, quelqu'un qui tombe malade. Et j'ai vraiment switché. J'ai vrillé dans le sens où toutes ces priorités, ça allait. Il fallait clearer les samples, il fallait faire ci, il fallait faire beaucoup de trucs. Et à ce moment-là, j'avais une autre. J'ai fait un virement à 360. Je suis allée à d'autres choses plus essentielles. Et puis la vie a fait que le mouvement par exemple Drum and Bass, j'ai toujours continué, s'est essoufflé à un moment donné, l'événementiel ici a un peu retombé aussi, et puis le train a passé, d'autres artistes, d'autres choses, d'autres mouvements, d'autres trucs, et t'es content de regarder aussi ce qui naît, donc ça s'est arrêté un peu comme ça, mais qui sait, peut-être que ça reprendra.
Là, ça revient, non ? Ça revient à la mode, notamment la drum and bass, mais je pense qu'on te reverra bientôt aussi.
Oui, le 20 avril, avec Laura Violi, des drum and bass, qui m'a accueilli dans l'idée de me relancer aussi. On sera sur scène à la caserne Fonck le dimanche 20 avril pour le Caritative Tattoo Days, donc un événement... Drum and Bass UK, et faut venir.
Et comment est-ce que tu regardes, quel regard est-ce que tu portes sur la nouvelle génération, comme des gens comme Laura notamment, qui relance un peu certaines choses.
Laura, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette artiste-là, parce qu'il y a vraiment la volonté d'être active dans le milieu musical, dans la culture, d'être investie, d'amener des artistes, d'aller les rechercher. Elle va jouer un peu partout en Belgique et c'est plaisant de voir quelqu'un qui aussi ne s'affranchit pas d'un seul genre. Mm-hmm. Parce que, entre guillemets, à mon époque, on mettait un oignon à la ceinture, non. Je suis metal, machin, puis je suis hip-hop, il faut que je sois 100% puriste. Ah ouais, mais si on mélange un petit peu, c'est touchy. Puis finalement, tout a un peu évolué avec le fil du temps, la manière de consommer la musique aussi, surtout. Et aujourd'hui, je suis fière de voir des personnes comme Laura qui va jouer à un moment donné des trucs peut-être plus UK, des trucs plus drum and bass, du latino, du reggaeton, du hip-hop. Et ça fait plaisir. Donc je vois ça d'un œil très, très enthousiaste et full support, quoi.
Mm-hmm. Cet éclectisme dans la musique, tu le vois aussi ? Tu disais justement tout à l'heure que tu avais envie de mélanger les styles.
Honnêtement, je peux pas. Dans le rap, je peux pas dire, parce que je connais pas assez. Je connais pas assez d'artistes liégeois. Je m'y intéresse de pas assez près, depuis pas assez longtemps pour pouvoir dire quoi que ce soit. Mais dans tout le reste, dans tout ce que je vois, oui, l'éclectisme musical, il est de plus en plus présent. Puis moi, déjà, une bonne partie des groupes et des artistes que je supporte sont éclectiques, c'est du métal, mais System of a Down, il y a de tout. Mm-hmm. Il y a plein de groupes comme ça qui marchent bien, et je pense que c'est un petit peu... c'est pas nouveau, hein, en fait, c'est pas si nouveau que ça, parce que System of a Down, c'est les années 90, Deftones, c'est les années 90 aussi. Tous ces groupes qui mélangent un peu tout, c'est les années 90 aussi.
C'est mes références. Je vais les voir le 3 juillet.
Je suis jalouse.
Donc, mais c'est marrant, du coup, vous n'avez pas le même âge.
J'ai une culture musicale très vaste. Parce que bon, j'ai commencé à écouter la musique de mon père, qui lui écoutait du hard rock style années 80-90. Puis moi, j'ai cherché moi ce que j'aimais. Et j'adore le rock des années 90. Je suis une grande fan d'Alice in Chains. J'ai un t-shirt d'ailleurs, Alice in Chains. Je vais voir Derek Cantrell en juin. J'adore ce mouvement parce qu'il est justement, il y a un mélange de tout. Il y a un ras-le-bol général. Les gens commencent à dire ce qu'ils pensent dans la musique. Il y a vraiment une sorte de rage palpable dans certains morceaux. Et il y a, même dans le rap des années 90, il y a ce truc aussi qui peut-être n'a pas disparu. Mais dans ce que je vois, dans ce qui passe à la radio, c'est moins l'esprit hip-hop qu'il y avait au début, c'est moins l'esprit...
Urgence.
Voilà, c'est ça. On a moins ce côté d'urgence. Et je pense que ça va revenir, vu la situation, de toute façon, ça va revenir. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est compliqué de pas être en colère avec tout ce qui se passe, quoi. c'est vraiment compliqué. Donc oui, on parlait d'éclectisme. Oui, l'éclectisme, pour moi, il a toujours été présent, il sera toujours présent. C'est juste... qui sera plus présent dans certaines scènes de niche qu'à la radio, par exemple.
Ça dépend quelle radio, hein.
Oui, ça dépend quelle radio, on est bien d'accord. Mais voilà, à une heure de grande écoute sur une radio populaire, c'est sûr que les morceaux un petit peu plus alternatifs ou un peu plus expérimentaux passeront moins. Mais voilà, ça existe toujours et ça existera toujours. Et j'espère que ça existera encore pendant longtemps. Parce que c'est ça qui est riche, c'est ça qui fait la richesse de la musique, c'est qu'on puisse tout mélanger. On n'inventera plus quelque chose de nouveau, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. Le seul moyen de faire du nouveau, c'est de reprendre l'ancien et de jouer au petit chimiste, quoi.
Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je te vois un peu hésitante.
Pas nécessairement, ouais. C'est sûr que la musique est cyclique et je comprends le fait de reprendre l'ancien, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a encore moyen d'inventer, d'écouter, ne serait-ce que dans le monde. Enfin, nous, on est sur l'anglais ou sur le français, mais ce qui se passe au Japon, ça se trouve, il y a des sons de fou. Et donc, ouais, je crois vraiment qu'on peut encore tout réinventer. Je suis fondamentalement optimiste. Je pense qu'on peut tout réinventer, tout remanipuler, tout créer. Pas des nouveaux genres à fond.
Ah oui, mais de toute façon, les hybrides qu'on fait avec l'ancienne musique, entre guillemets, donnent des nouveaux genres. Voilà, le grunge, c'est maintenant c'est vieux, mais à la base, c'était un nouveau genre. Mais c'est un mélange de plein de choses quand on écoute correctement. Donc oui, bien sûr que oui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça continue, parce que l'hybridation de la musique, c'est en fait la création de nouveaux genres. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu à vos carrières respectives. Pour vous, ça a été quoi le plus grand défi auquel vous avez dû faire face pour mener à bien, justement, votre carrière, qu'elle vienne de commencer ou pas ?
Waouh ! C'était spontané. Un grand défi, déjà se dire ok, ce morceau est fini, je vais le mettre, je vais le publier, je vais le faire écouter, et je vais devoir assumer aussi derrière tout ce truc là. Je pense que ça, c'était un défi, déjà de se dévoiler finalement.
Ah, c'est exactement ça, surtout qu'on est toujours un peu son pardon.
Non, j'ai dit c'est se dévoiler, ouais.
On est toujours un peu son propre bourreau quand on compose, quand on enregistre. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez ceci. On commence 500 fois une piste parce qu'on veut une telle note et un tel moment, un tel truc. Et au final, on perd un petit peu le point de vue. Enfin, on perd un petit peu l'objectif de s'amuser, en fait. Parce que la musique, c'est ça. Et ça, c'est le plus dur pour moi pour le moment. C'est vraiment de me dire, ok, maintenant tu fais et t'arrêtes de réfléchir. Je suis toujours en train de me poser 4000 questions. Et c'est ça le plus dur pour moi. C'est vraiment... Tu exécutes, tu fais et t'arrêtes de réfléchir. Et voilà, c'est mon plus gros obstacle, c'est ça.
Les réseaux sociaux, pour vous, ça joue quel rôle ? Ça a joué quel rôle ?
Disons que moi, je suis tombée un peu la génération oubliée. C'est-à-dire que il y avait YouTube, il y avait Facebook... mais pas tant d'Insta pour diffuser, donc pas peu de commentaires encore, en tout cas c'était plus limité, donc forcément c'était moins destructeur, parce qu'il n'y a rien à faire, ce que je vois aujourd'hui et l'acharnement dont je suis témoin par rapport aux artistes en général et même tout de la dérive des réseaux sociaux en règle générale, l'avis de tout le monde, c'est bien de donner son avis, mais des fois c'est bien d'être respectueux et de réfléchir. J'en ai été préservée, mais du peu que j'ai, entre guillemets, j'ai eu, diffusé ma vidéo, et puis après, t'as plein de gens qui te contactent et tout ça, et on s'est quitté, tu vas, entre guillemets, à petite échelle, tu vas à un endroit, et t'es machin. L'anonymat, en fait, il fait aussi des fois du bien. Et d'être sursollicité à cause des réseaux sociaux, des fois aussi, ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas. Donc, pour les nouvelles générations, j'imagine que ça doit être assez difficile.
Moi, je ne sais pas gérer tout ça. Honnêtement, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui aime être filmé ou prise en photo. Donc déjà, c'est
oui,
déjà
mais compliqué. Est-ce que tu ne vas pas devoir, du coup?
Mais je vais devoir, je n'ai pas le choix. Hein. Voilà, Nectar Culture, on a eu plusieurs séances photos, je n'ai pas eu le choix. Je ne suis juste pas du tout à l'aise avec tout ça et tout. Et du coup, j'ai toujours un peu peur que le côté promotion sur les réseaux sociaux soit un obstacle pour moi, surtout que ce n'est pas des choses que je maîtrise. Oui, bien sûr, j'ai les réseaux sociaux. Bien sûr que je poste de temps en temps une petite vidéo, mais il n'y a rien de professionnel. Voilà, c'est de l'amateurisme. Et j'ai toujours un peu peur de pas gérer ce côté-là non plus, quoi. Parce que j'ai l'impression que maintenant, sans les réseaux sociaux, ta publicité, elle se fait plus. C'est plus comme avant où c'était... tu passais à la radio, tu passais à la télé. Maintenant, c'est d'abord les réseaux sociaux et c'est la première étape. J'ai vraiment l'impression que si tu passes pas l'étape des réseaux sociaux, tu vas nulle part. Donc voilà. Mais je l'ai dit, j'ai fait The Voice. Moi, on m'a déjà dit... Si c'est vrai, mais on m'a déjà dit, les premiers qui vont être pris, c'est ceux qui ont une bonne fanbase sur Instagram, Facebook et tout ça. Donc c'est autant ça peut être génial, autant pour ceux qui s'y connaissent pas, qui ne sont pas spécialement là-dessus, c'est une mauvaise chose en fait, parce que moi ça me pénalise. Donc voilà.
Tu parlais de tout à l'heure de génération oubliée, donc du coup toi comment est-ce qu'on promeut un projet?
À l'époque ou maintenant?
En 2010, non?
Il y avait beaucoup, peut-être plus de scènes. Le fait d'organiser des événements, ça aidait aussi à diffuser un petit peu plus, montrer qui on est. Moi, c'est SoundCloud, ça a été Facebook, ça a été YouTube. Et. YouTube n'avait pas allé faire 1000 vues en 24 heures, c'était énorme. C'était déjà Byzance. Donc c'était compliqué. C'est vrai qu'il y avait aussi l'aspect mixtape, téléchargement, mettre sur des plateformes et aussi le début des freestyles ou des vidéos, justement, je pense à... Give Me Five ou même ici à Liège des personnes comme Sonar qui ont fait les Escalator. Il en a fait 100, l'air de rien, tu vois, avec chaque artiste ça a donné un petit peu une visibilité, tu regardais parce que tu avais peut-être participé mais tu découvrais aussi plein d'autres artistes et puis les bookers aussi aident à la programmation des festivals. Je reviens sur les Ardentes, mais ils avaient quand même la possibilité de programmer des beaux plateaux d'artistes locaux ou belges. Et ils le font, je pense, toujours.
Et justement, on parle de programmation. On remarque quand même un déséquilibre entre artistes féminines et masculins. Est-ce que vous avez déjà été pénalisées par ça ou au contraire, on vous a mis sur scène parce que vous étiez des femmes? Enfin, est-ce que vous êtes déjà senties instrumentalisées quelque part?
Bien sûr.
Ouais. Et de quelle manière?
Instrumentaliser de la bonne manière, c'est-à-dire que j'ai déjà participé à plusieurs événements, même en France ou en Allemagne ou en Hollande, où c'était des events 100% filles. Cool. Forcément, ça a un produit d'appel. Il y a un truc avec des meufs. Ça donne un produit particulier. Plutôt chouette. Et dans les programmations, c'est parce que dans la vraie vie, dans les prods, il y a moins de meufs que de mecs. Moi, ça ne m'a pas trop étonnée.
Mm-hmm. De ton côté, Sol ?
De mon côté, tant que maintenant, je n'ai jamais eu d'expérience négative là-dessus. Au contraire. J'ai déjà des hauts qui m'a déjà dit, de chez Nectar Culture, qui m'a déjà dit, on recherche des artistes féminines pour le moment, on n'en a pas assez. Donc moi je pense que le problème du fait qu'on n'a pas beaucoup d'artistes féminines, c'est parce qu'elles, petit à petit, quand on grandit, on perd cette confiance en soi qu'on peut réussir. Parce que souvent on nous dit, oui mais une femme ça doit être ça, ça doit être ci. Et je sais pas si, enfin moi ça m'a jamais perturbé, j'ai toujours voulu être une enragée de la vie, j'ai toujours voulu faire de la musique, donc j'ai jamais écouté tous ces discours là, mais moi j'ai vu plein de nanas qui au milieu de leur vie qui se sont dit mais c'est bon, hein, j'ai autre chose à faire que de la musique, j'ai des choses plus importantes à faire, et du coup on perd plein de potentiels artistes de cette manière là.
Je te vois qui essaye.
Oui, parce que c'est vrai que l'écriture, ça reflète des passages dans la vie, qu'à un moment donné, je vais parler là très meuf, nous les femmes, on doit être nous-mêmes, avoir de l'ambition, mener des projets, parfois voilà, avoir une vie de famille, être mère, gérer les trucs. Est-ce que tout le monde a envie d'entendre des fois aussi des sujets de la vie en fait réelle des femmes, la condition des femmes, leurs problèmes, leurs insécurités? Est-ce que c'est un sujet que tout le monde a envie d'écouter? Et ça aussi, c'est vrai que j'ai réfléchi aussi parce que même l'aspect militant, on se dit on est là, on fait 14 choses en même temps et on est multitask et on doit se porter et parler de ça. Moi, je me suis dit, qui a envie d'écouter ça, qu'un mec. Ils ont 40, 50 piges, 60 piges. Ils vont toujours rapper. On ne va pas se poser la question des 14 rôles qu'ils ont en dehors. C'est des fois déséquilibré dans les sujets.
Même moi qui dit que je suis engagée, j'ai pas tout le temps envie d'être engagée non plus. Il y a des moments où j'ai envie de vivre, quoi. Je suis pas juste un porte-étendard pour un message.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Ouais, c'est ça.
Même si on me le demande souvent, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Bah oui, on le sait tout en fait.
Mais quoi, ça prend trop de place?
Des fois oui. Des fois ça prend beaucoup trop de place. Des fois on attend de nous uniquement ça.
Ouais.
Alors c'est que vrai. On est autre chose, on est aussi des êtres vivants à part entière. Hein. On n'est pas que des. C'est pas. Comme je le dis, l'envie d'être une femme enragée, bien sûr. Mais je peux pas être enragée toute l'année. À un moment, il faut que je mange, il faut que je me repose, il faut que je m'amuse aussi. Il faut que. Puis non, ce serait complètement casse-pied à faire de voir être énervée pendant 2 jours pour écrire 6 textes. Non, ça va. À un moment, j'ai autre chose à faire que ça. Si je veux avoir des sujets un peu plus cool, un peu plus. Voilà.
Mais donc, toi aussi, Ludivine, tu sens que parfois on essaye de te mettre dans une case ou en tout cas d'être un porte-étendard quand même.
Des fois, le fait juste d'être une femme ou d'être parfois entre deux ou d'être, il faudrait correspondre à pile poil. Est-ce que c'est une condition, la condition féminine? Ah, c'est la question du genre, ou là, le truc. À un moment donné. Est-ce qu'on pose ces questions-là à un homme? En fait, non. On ne leur pose pas. Là, ils sont. Donc, voilà.
Ouais. Après, voilà, on en discutait aussi un peu avec les collaboratrices autour. Là, ça fait. On est au quatrième. Et vous êtes les premières femmes à venir. Et on a parlé de DJing, on a parlé de beatmaking. Après, certaines invitées n'ont pas pu venir. Mais. Ça dit quand même quelque chose sur ce milieu. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça en dit, je sais pas, pour vous.
Bah, que les femmes, elles sont partout, qu'on est toutes mélangées. Enfin, moi, je pense ici à la radio, il y a des femmes dans les bookeuses, il y a des femmes dans les programmatrices, il y a des femmes sur scène, il y a des femmes. Et donc, elles sont là, on est là, et que ça va continuer, et qu'il faut encourager ça, il faut. être étendard, oui, mais pas tout le temps, et que juste les sujets et que la manière dont c'est abordé ou quand on parle de ces artistes-là, qu'on ne les mette pas toujours en balance avec les hommes, ouais. Aussi.
C'est ça. Tu es d'accord ?
Ouais, mais clairement, ouais. Des fois, j'aimerais juste qu'on oublie mon genre, en fait. Moi, quand j'ai commencé, tu me disais, ouais, tu rappes comme un homme. Bah non, je rappe tout court. Je rappe comme ça me vient, en fait. C'est pas parce que j'ai une voix assez rentre-dedans, que j'ai un caractère, mais non, je fais pas les choses comme un homme, je fais les choses comme moi, c'est tout. Et c'est ce message-là que je veux renvoyer, et j'aimerais que n'importe quelle petite fille qui grandit avec le rêve d'être musicienne, ou rappeuse, ou chanteuse, ou peu importe, se sente libre de le faire comme elle le veut. Qu'elle n'ait pas envie d'être féministe, ou tradwife, entre guillemets, mais qu'elle puisse être elle-même.
Libre.
C'est ça. Et ça, c'est super dur. C'est super dur. C'est super dur actuellement de trouver ce juste milieu-là, d'être soi.
Mais tu vois, je te questionne un peu là-dessus parce que je sais que, notamment chez Nectar, ils ont voulu faire des ateliers en non-mixité. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que, bah, des fois, c'était dur de prendre sa place en tant que femme. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Est-ce que ça, pour toi, ça se justifie ? Ça se justifie pas ? Voilà.
Ça se justifie, oui et non. Oui, non. Parce que bah, ici, c'est un atelier qui était composé exclusivement de jeunes filles. Mmh. Et oui, quand on est jeune, oui, on a du mal à s'imposer face à certains garçons. On n'a pas tout le même caractère. Moi, ça ne m'a jamais vraiment posé problème. J'ai toujours été, j'aime pas cette expression-là, mais toujours le petit garçon manqué de la banque, de la bande, pardon. Donc, j'ai toujours été comme ça. Mais oui, pour des jeunes filles, je le comprends. Maintenant, quand on devient adulte, est-ce qu'à un moment, ça a toujours autant d'importance ? Est-ce qu'on a toujours besoin d'être seulement entre femmes ? Est-ce qu'à un moment, on peut pas faire comprendre aux hommes aussi que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est spécialement différentes d'eux ? On partage les mêmes préoccupations sur beaucoup de choses, hein, et eux aussi ont leur fardeau à porter. Donc est-ce qu'au départ, le féminisme, c'était une bonne idée ? C'est toujours une bonne idée, ça sera toujours une bonne idée. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plus penser en termes d'humanité plutôt que de sexe ? Plutôt penser en mixité plutôt qu'au niveau sexisme, homme-femme, tout le temps. Voilà, parce que les hommes aussi ont des choses à faire valoir. Hein. Il n'y a pas que de nos côtés qu'il y a des choses qui clochent, il y en a des deux côtés. Donc oui, avoir un atelier pour les jeunes filles parce qu'elles en ressentent le besoin. Si elles en ressentent le besoin, oui. Sinon, non, pourquoi faire ?
C'est ça, pour toi, il faut s'adapter à chacun, chacune, quoi.
Exactement.
Ouais, ok. Ludine, je te voyais acquiescer quand elle prenait la parole. Tu es assez d'accord aussi
ouais,
avec
ouais,
ça.
Oui, ouais. Je trouve que voilà, c'est vrai ce que tu dis. L'humanité, à nouveau, ne pas enfermer les genres, ne pas enfermer, juste les écouter. Si on a envie d'être, si on a envie d'avoir des ateliers non mixtes, pourquoi pas ? Si c'est mélangé, pourquoi pas ? Enfin, juste faire ensemble et c'est bien.
Ah, c'est ça.
On est donc dans une exposition héritage. Voilà, quel serait un peu ce que vous... Quelle trace est-ce que vous auriez envie de laisser ? Est-ce que déjà, par exemple, toi, Divine, qui a une carrière peut-être un peu plus longue que celle de Salt, mais est-ce que tu as envie de transmettre des choses ?
Transmettre, je sais pas, à mon petit niveau, juste le souhait que cette ville bah, continue à diffuser, voilà, de la bonne musique, qu'elle soit toujours un lieu de partage, etc. Et d'avoir fait humblement partie de quelques petits événements, je suis déjà bien contente d'avoir fait partie de tout ça.
Et toi, donc voilà, on te souhaite une longue carrière, mais est-ce que tu as envie déjà de, enfin, tu vois, de laisser quelque chose ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne ?
Moi, je veux juste qu'on retienne que j'ai été authentique au plus possible, au plus possible. Je pense que c'est le plus important pour moi en tant qu'artiste, c'est d'être authentique. Que ce soit au niveau de mes textes, que ce soit au niveau de mon image personnelle, je pense pas qu'il me faille énormément d'artifice. Quoi. J'ai toujours eu un style vestimentaire à part, j'ai toujours eu ma vision des choses, j'ai pas envie que ça change. Donc un petit peu donner, bah, comme je disais tantôt, l'espoir aux petites filles qui se sentent un petit peu space, un petit peu différentes, qu'elles peuvent l'être sans problème, elles peuvent être elles-mêmes en fait. C'est pas... c'est aussi un gage de réussite, être soi et ne pas vouloir se conformer. Voilà, c'est juste un peu plus difficile parfois.
Ben on a le plaisir de recevoir Enke qui vient d'arriver cette année à SNC, ben dis donc. Hein.
Bonjour.
Bonjour, ben bienvenue.
Merci.
Ben voilà, on va peut-être, on a parlé plein de choses et tu arrives un peu à la fin de cet épisode, mais peut-être pour toi, on parlait d'héritage justement. Est-ce que toi, tu as envie de transmettre des choses, de laisser quelque chose en héritage?
Oui, bien sûr. Franchement, j'aimerais bien que, à travers mes textes, à travers mes lyrics, que les gens retiennent un peu. Enfin, qu'un artiste est une personne comme toutes les autres et qu'il a eu du vécu et que voilà, ils sont pas seuls et que les gens peuvent s'identifier et oui.
On a parlé, c'est une émission spéciale femmes, donc on a beaucoup parlé de certaines problématiques. Tes collègues ici ne voulaient pas se définir comme des porte-étendards. Est-ce que toi, quelle position est-ce que tu prends un peu par rapport à ta place de femme? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que ça a été plutôt positif? Quelle position est-ce que tu portes par rapport à ça?
Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas expérimenté des mauvaises, enfin, j'ai pas eu de mauvaises expériences. La plupart du temps, ça se passe très bien. Les gens sont très respectueux, très bienveillants. Et j'ai rencontré beaucoup de rappeurs masculins. Et de leur côté aussi, ils montrent le respect devant une femme qui voilà se lance dans la musique et qui rappe et qui chante et ça je trouve bien. Donc pour moi ça n'a pas encore été vraiment difficile.
Toi Sul, tu vois, tu parlais de laisser peut-être une trace pour les petites filles qui nous écoutent, etc. Ça. Est-ce que il y a cette volonté aussi de montrer un exemple ou de enfin voilà je de ouais d'être de donner envie à d'autres femmes?
Oui, bien sûr, parce que je me dis que moi aussi, quand j'étais petite, je voyais toutes les artistes féminins monter et chanter, rapper. Et je me suis dit un jour je serai là-bas aussi. Et j'espère que à travers ma musique, je peux aussi donner ce rêve à d'autres filles et que ça marche pour eux.
Et c'est quoi, toi, qui t'a donné envie de faire du rap, de faire de la musique?
En vrai, j'avais toujours la musique dans le sang. J'adore la musique, je ne pourrais pas vivre sans. Et c'est en écoutant beaucoup d'artistes, notamment des artistes américains, anglais, que j'ai eu beaucoup d'influence. Donc, par exemple, Missy Elliott, Lauryn Hill, c'est vraiment les attitudes, les manières de rapper, de chanter qui m'ont inspirée. Et je savais déjà depuis que je suis petite qu'un jour j'allais être une rappeuse, une chanteuse. Donc,
On parlait tout à l'heure aussi de peut-être prendre, tu vois, un double en tout cas pour monter sur scène, pour se donner de la force et pour se transcender quelque part. Toi, est-ce que ça t'arrive aussi ou est-ce que t'arrives à être totalement toi? Ou alors, enfin voilà, explique-nous quand tu montes sur scène, comment ça se passe pour toi?
En vrai, quand je monte sur scène, pendant que je rappe, que je chante, on dirait que je suis une autre personne parce que je suis plutôt une personne calme, douce et sur scène, j'en vois quand même. Et et du coup, pendant pendant les sons, je parle avec le public. Et là, le public voit un peu qui est Kelly et pas Enke. Parce que en vrai, je parle comme je parle maintenant. Et puis je rappe comme je rappe en tant que Enke. Donc la plupart des gens disent que j'ai un alter ego. Donc.
Et vous, justement, quel rapport est-ce que vous avez pu avoir avec le public? Est-ce que ça a toujours été des échanges? Est-ce que vous avez tenu compte, en fait, finalement, des retours que vous aviez ou pas? Je sais pas.
Moi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de différent sur scène. J'ai l'impression d'être moi, mes versions augmentées. C'est-à-dire que je suis déjà quelqu'un de très... de très extraverti. Mais quand je suis sur scène, j'ai la rage en fait. J'arrête pas de sauter dans tous les sens. Et c'est un moment où j'ai l'impression que je peux vraiment m'exprimer et y aller. Quoi. Alors que d'habitude, je dois justement apprendre à être plus calme, apprendre à doser, ouais, apprendre
là,
à me taire.
Là, tu peux vraiment.
Et là, je peux y aller en fait. On s'en fout. Et c'est ça que je préfère en fait.
Et les retours par rapport à tes prestations, par rapport au public, est-ce que ça a de l'importance pour toi? Est-ce que tu.
Ouais, ouais. Je pense que c'est peut-être même mon point fort. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que sur scène, même si j'ai rien de très concret, quand je suis sur scène, je suis sur scène, je suis là à 100%, je suis avec tout le monde, je me donne à fond, je m'amuse. Et je pense que ça, ça se ressent, ça se voit, et pouvoir faire participer le public, c'est génial. Je me rappelle avec Nectar Culture, j'ai fait le Cultura, on a eu un petit moment de battement parce que bon, il y avait des plus petits, des plus rookies, des plus débutants, des plus jeunes qui étaient sur scène et qui ne savaient pas trop comment sortir, donc il y a eu un petit blanc, et j'ai eu cette idée de faire ah ouais et fais comme le chanteur de Queen, fais comme Freddie Mercury, et j'ai fait un eh oh, et j'ai vu tout le public me répondre, et ça a créé une sorte de décharge électrique dans tout mon corps, et c'était bon, j'étais partie, j'étais à 2000 watts pour tout le reste du concert, quoi. Et c'est galvanisant.
Oui, parce qu'il y a quelque chose vraiment quand on monte sur scène, enfin voilà, on ressent des choses particulières. C'est quoi un peu votre ressenti là, comme ça, si on devait en parler?
Moi, j'avoue que bon, ayant commencé surtout en étant voilà, MC, donc en compagnie des DJ, déjà dans le crowd hyper, donc le côté mettre de l'huile sur le feu à chaque fois, c'est un truc qui est galvanisant, quoi. C'est grisant et qu'on aime bien, quoi.
Ouais. À fond. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu es sur scène comme ça, Nke?
L'adrénaline.
C'est
vraiment de l'adrénaline, des sentiments de satisfaction et du fait qu'on se dit « Ah, maintenant, on peut m'entendre, je peux me faire entendre et par mon art, et c'est un truc de dingue, quoi.
Ouais, c'est une chance quand même.
Oui.
Est-ce que tu as un petit rituel quand tu montes sur scène?
Oui.
Ouais, tu nous expliques?
Je prie l'univers. Je prie l'univers, je demande de la force, des bonnes vibes, je demande que tout se passe bien, que tout le monde s'amuse. Et la plupart du temps, ça porte fruit.
Et il y a quand même ce petit stress avant de monter sur scène ou pas?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours un petit stress, mais c'est du bon stress. Mm-hmm. Et au début, genre, je commence à chanter, je suis stressée, mais avec le temps, ça part et je savoure tout le concert.
Est-ce que tu as participé à pas mal de concours qui te permettent d'avoir un accompagnement, etc.? Ça a été important pour toi? C'est important de participer à ce genre de choses?
Oui, franchement, parce que c'est une grande aide pour mes projets, pour aussi la visibilité des professionnels qui étaient au concours, le fait d'avoir reçu des prix, et ça c'est vraiment ça m'a vraiment boosté dans ma vue de comment je vois ma carrière en vrai.
On a parlé aussi de légitimité dans cette émission. Est-ce que toi, tu t'es sentie tout de suite légitime de faire ce que tu faisais? Tu t'es tout de suite sentie à ta place? Ou alors c'est quelque chose qui t'a fallu, par exemple, à travers le regard de professionnels qui t'encouragent ou, voilà.
Non, en vrai, depuis que j'ai commencé à chanter, quand j'avais 5 ans, j'assume. J'assumais ma voix, j'assumais... Je voulais être sur scène. Mmh. Et je savais, en vrai, j'avais confiance en ma voix. Mm-hmm. Enfin, j'ai toujours confiance en ma voix.
Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, peut-être un bon souvenir que tu as envie de partager avec nous, un bon souvenir de scène ou
Un bon souvenir de scène? Bah, franchement, la scène qui m'a plu dernièrement beaucoup, c'était ma scène au concours circuit. Parce que déjà c'était une belle scène au Botanique et c'était la deuxième fois que j'étais au Botanique et les gens ils ont dansé, c'est vraiment mes petites anecdotes, enfin cette anecdote c'est vraiment que voilà, les gens ils étaient emballés quand surtout à un son qui faisait danser et tout, et C'est l'un de mes meilleurs concerts, en tout cas.
Et ça, vraiment, on sent ce lien avec le public une fois que... Enfin, on est attentif à ça ou alors quand on est sur scène, on est plutôt dans sa bulle?
Je suis attentif à ça parce qu'il y a des sons où je regarde les gens dans les yeux. Je leur fais ressentir la magie de la musique et oui, non, je le ressens sur scène.
Et par rapport à un travail en studio, peut-être, je pense que toi, tu as sorti un EP aussi, un album. Est-ce que, comment est-ce qu'on envisage ça? C'est différent de la scène, toi surtout qui étais fort avec les MC, fort dans la scène, dans la performance.
C'était tout un apprentissage, puis s'entendre, faire les bacs, c'est tout un art et on apprend. Et ce qui est bien, c'est souvent qu'on est guidé aussi par des gens qui ont de l'expérience et qui rassurent et qui guident. Donc c'était un plaisir. Après coup, je me dis c'est un plaisir, mais sur le moment, c'était compliqué.
Oui, et toi? Tu n'as pas encore l'expérience du studio,
Si,
mais...
Si, j'ai déjà l'expérience du studio. Voilà. Moi, j'expérimente tout le temps, en fait, parce que je connais rien. Et c'est très cool, parce que souvent, j'arrive avec un texte et on me propose de faire les bacs, et j'y ai pas réfléchi, et je lâche un truc comme ça, ça passe. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez particulier, et ça me plaît. Je suis plutôt dans cette optique-là de toujours tester, de toujours voir où les choses me mènent, maintenant, en tout cas.
Tout à l'heure, pardon, tu parlais de Happy, je ne sais plus quoi.
Happy Accident.
Voilà.
Je pense que c'est ce que je préfère. C'est, voilà, j'ouvre le logiciel, je teste un truc, je fais une bêtise, j'ouvre un plugin que je ne connais pas et ça sonne bien. Et je le garde du coup. Et j'adore ce côté un petit peu expérimental. Et c'est pareil, quand je fais des bacs, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Alors du coup, des fois, j'essaye un mot sur deux, j'essaie de les chanter. Et c'est super cool, c'est super intéressant aussi.
Et toi, qu'est-ce que, justement, quand tu envisages le studio, est-ce que c'est très cadré? Est-ce que tu sais déjà tout ce que tu vas faire avant ou alors est-ce qu'il y a une part d'impro un peu comme ça?
Il y a, donc moi, quand je vais au studio, déjà, je suis super excitée d'aller au studio. Et moi, j'ai une manière comment enregistrer et la plupart du temps, je prends cette manière-là. Maintenant, si je suis dans un autre studio à part chez moi à la maison, j'aime bien avoir l'avis du beatmaker, de la personne qui m'enregistre et voir avec elle comment on fait, comment la personne elle-même travaille et faire un petit mélange entre mon univers et son univers et vraiment travailler ensemble quoi.
Est-ce que il y a une personne qui t'a vraiment aidé ou en tout cas renforcé dans ton parcours?
Oui, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y a ma manageuse Julie Bernardi. Il y a mon DJ beatmaker Tomoyo. Il y a encore plein d'autres beatmakers genre Namski avec qui je prépare un EP. Et il y a ma famille, il y a mon amoureux. Il y a franchement il y a un peu les gens qui m'entourent et avec qui je passe mon temps.
Et ça, j'imagine, c'est important d'être bien entouré, d'avoir une équipe. Est-ce que toi, Ludivine, c'était déjà ton cas?
Le côté clique, ami. Tout à l'heure, j'en ai cité quelques-uns. Ça reste des proches et des soutiens toujours hyper hyper importants.
Toi aussi, j'imagine.
Moi, c'est surtout les gens de la MJ et un de mes amis proches, parce que j'ai pas 36 millions d'amis, j'ai vraiment un comité restreint à ce niveau-là. Mais je dois beaucoup de choses à la Maison des Jeunes d'Herstal, en tout cas. Autant à 213 qu'à JF, qu'à je vais oublier les noms, c'est magnifique. qu'à Dounia et toutes les éducatrices qui sont là aussi, parce qu'ils font un travail fantastique. Quand je vois toutes les opportunités que ça nous ouvre, je trouve ça fou. On a un studio d'enregistrement dans une maison des jeunes. C'est cool, quoi. C'est cool. On a du bon matos en plus. C'est pas comme si on avait des trucs tout pétés. On a peut-être pas toutes les personnes qualifiées pour nous montrer ce qu'il faut, mais on a le matériel, on a des opportunités. On a des opportunités de scène. Et honnêtement, je serais pas ici à côté de vous à discuter si je n'avais pas croisé JF ce jour-là. Donc je vois vraiment une fière chandelle à la MJ d'Herstal et à Nectar Culture aussi, hein. Faut pas se leurrer, je pense que c'est grâce à eux que j'ai réussi à trouver une certaine maturité maintenant dans ce que je fais. C'est pas encore tout à fait fixé, c'est pas encore tout à fait terminé, mais je commence à voir vers où je vais. Et honnêtement, je pense que sans ces deux organismes-là, je ne ferais pas du rap aujourd'hui. Je pense même pas que je serais ici à vous parler, quoi.
Il est déjà l'heure de se quitter, hein. On a bien papoté, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vais quand même vous laisser un mot de la fin, donc peut-être qu'on peut commencer par toi Nke, et puis Ludivine, et puis Salt.
Oui, donc moi tout ce que je peux vous dire c'est que si vous êtes artiste, si vous vous lancez dans la musique, si vous êtes artiste émergent, poursuivez votre rêve et ne lâchez pas, et franchement ça vaut la peine, et il y a moyen que vous allez loin, et du coup oui, vous êtes la clé de votre propre succès, donc ouais. Allez-y.
C'est dur de faire mieux. C'est dur de faire mieux, mais oui, force. Et j'espère que toutes les petites filles, tous les petits garçons du 4000 qui ont envie de faire du son, qui ont envie de faire dans tous les genres possibles, faites-le et vivez le truc à fond, et on vous écoutera.
Ouais, soyez vous-même et n'oubliez pas aussi que c'est un jeu, entre guillemets. Voilà, il ne faut pas chercher la... Je ne pense pas qu'il faille absolument chercher la célébrité. Je pense qu'il faut surtout se faire plaisir à soi-même avant. Et bref, soyez vous-même, quoi, lâchez-vous.
Allez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on se quitte. Merci d'avoir été sur 48FM. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, merci.
Au revoir, merci. Ça va. Yeah.